Et maintenant, donc Étienne Fromelt qui va nous parler un peu de. Vas-y, Étienne, vas-y.
Il y a effectivement du stress au début.
Donc, contrairement à ce qui a été publié sur certains papiers, je ne m'appelle pas Fromelt, je m'appelle comme dans la chanson Étienne. C'est juste une faute de saisie. Hein. Voilà. Donc, Étienne Fromelt, j'habite en Ardèche, hein, dans un petit village de 200 habitants, dans les montagnes. Hein. Et depuis que j'y habite, donc depuis une trentaine d'années, tout le temps, je me suis dit, mais comment faire pour vivre et travailler au pays? Et j'ai passé ma vie à essayer de trouver des solutions, on en a trouvé. J'ai été formateur, j'ai monté une association de développement local. Et depuis une dizaine d'années, je suis tout bêtement, puisque j'en avais marre d'aller à des colloques, à des réunions, à des trucs comme ça, je me suis réfugié chez moi dans ma ferme. Hein. Et je fais de l'accueil familial d'adultes handicapés ou de personnes âgées. Alors, tout le monde connaît l'accueil, les familles d'accueil pour enfants, les assistantes maternelles ou familiales. Hein. L'accueil d'adultes handicapés ou de personnes âgées est plus récent, puisque la loi qui réglemente cette activité ne date que de 1989. Hein. Et ça vient régulariser un peu des accueils qui se faisaient plus ou moins de manière sauvage. Hein. Alors on pense aux Thénardier, aux pensions de famille, etc., où on met 12 personnes dans le même immeuble. Et le législateur, en 89, a pondu une loi pour dire, eh ben non, l'accueil familial ne se fait plus n'importe comment, il doit être encadré, contrôlé, géré, etc., et s'en tenir à certaines normes, par exemple, pas plus de 3 personnes accueillies au total, et encore, l'agrément peut n'être donné que pour une, deux ou trois. Alors, en Ardèche, c'est peinard hein, comme boulot, parce qu'on est chez soi, il faut être un peu casanier, et puis il faut avoir envie de s'occuper de gens qui ont eu des accidents de la vie. Ça peut être, personnellement, j'accueille surtout des adultes handicapés, en disant, surtout handicap mentaux, ou handicap physique et mentaux associés. Mais il faut être casanier, c'est-à-dire qu'on est tenu à une astrate, une présence responsable hein, 24 heures sur 24, On ne peut pas partir sans se faire remplacer, et c'est très difficile de se faire remplacer vu les revenus qu'on a. Hein. On ne peut pas payer quelqu'un plus que ce qu'on gagne. Hein. Et donc, après une vie d'agent de développement et des trucs assez mouvementés, quand même, ça a commencé à me peser un peu. Puis je me suis dit, ça serait intéressant. Et puis des copains me disaient, mais mince, c'est un métier formidable, hein. Ça permet de vivre et de travailler au pays. En plus, même les gens qu'on accueille participent non seulement à l'économie du village, c'est-à-dire on fait les courses dans le coin, hein, mais aussi à la vie sociale du village. Hein. Au lieu de mettre tous les handicapés toutes les personnes handicapées dans des établissements avec un petit car qui va les poser le matin et les ramener le soir, eh bien, ils vont au loto, à la fête du village, ils participent à la vie du quartier, ils donnent un coup de main aux voisins ou ils se rendent ces services mutuellement. Donc l'idée, c'était de voir, de faire connaître cette activité méconnue. En Ardèche, nous n'étions que 25 accueillants familiaux. On a monté une petite association locale et on s'est dit, on va aller voir les autres accueillants et voir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos conditions de travail, etc. Et puis là, en allant voir les gens les uns après les autres, on s'est aperçu quand même de trucs assez catastrophiques, c'est que déjà même nous, on avait du mal à se renseigner sur notre propre métier. C'est-à-dire que ni en documentation écrite, ni sur Internet, ni nulle part, on ne trouvait d'informations sur, à part d'aller sur Légifrance, aller regarder la loi. Les accueillants familiaux se contentaient de ce que le Conseil Général leur disait qu'il fallait faire. On s'est dit, on va quand même un peu chercher nous-mêmes quelles sont les règles normales, et puis on s'est aperçu que souvent, le Conseil Général ne disait pas, donnait sa version des faits, par exemple en disant, ben voilà, on va vous donner votre agrément si vous prenez monsieur ou madame, ou bien vous êtes contraint à telle et telle règle, etc., ce qui n'est pas vrai du tout. Donc c'était un peu la version des conseils généraux qui eux-mêmes se plaignaient d'un mode d'information. Donc on a tenté d'agir au niveau de l'Ardèche toute seule, hein, mais courir à travers d'un département, voir les gens, c'est bien, mais on disait mince, il faudrait des activités communes, des moments d'échange, des groupes de parole, des trucs comme ça. Il n'y a pas moyen d'organiser ça. Étant donné justement que chacun est coincé chez soi et puis qu'aussi bien on a 3 heures de route de suite de l'autre bout du département. On se tire un peu les cheveux puis se dit mais voilà, on pourrait faire un site internet où on mettrait tout ce qu'on trouve comme documentation, etc. Et petit à petit, donc en 97, on a commencé à créer la première version du site. Hein. Et petit à petit, bon, il y avait trois personnes, cinq personnes par jour qui venaient voir ce truc. De temps en temps, il y avait des gens intéressés qui témoignaient ou qui nous apportaient des documents. Et surprise, c'était même pas des accueillants familiaux, c'était des travailleurs sociaux, c'était des médecins, des psychiatres, etc. Et c'était même certaines personnes de conseils généraux. Et on s'est dit, effectivement, on ne peut avancer que tous ensemble. Hein. Donc le site s'est de plus en plus étoffé. Et on s'est dit, mais mince, nous, on avait un problème d'accès à l'information. Maintenant, on commence à diffuser de l'information. Mais ce qui nous manque, c'est les groupes de parole. Donc on a mis un forum sur le site. Et on a transformé le site en site dynamique. C'est-à-dire qu'on a un réseau de correspondants dans toute la France qui peut mettre en ligne des articles, faire corriger des informations, etc. Et en fait, on s'aperçoit, mais tout à fait involontairement, il n'y avait pas d'ambition de départ. L'ambition, c'était simplement de boucher un manque. Hein. C'est des gens, c'est des docteurs, c'est des gens de conseils généraux qui nous ont dit, mais ce que vous faites sur votre site, c'est de la formation. Parce que... il y a plein d'accueillants familiaux qui déjà n'avaient pas Internet, mais qui ont entendu parler de famille DAC par des voisins, etc., qui sont allés à la mairie ou à la bibliothèque aller consulter le site, hein, qui se sont dit, mais mince, ou alors je vais pouvoir m'exprimer aussi, je vais pouvoir aussi dire ce que j'ai sur la patate. Hein. Ou alors des accueillants familiaux dont les enfants ont un ordinateur pour l'école, et hop, ah, ben, je peux regarder s'il y a quelque chose sur l'accueil familial. Ah, papa, j'ai trouvé quelque chose, à un moment j'ai trouvé quelque chose, et ils y vont. Donc là, on voit toujours les débuts très hésitants de hurlements. Dans les forums, on voit ça, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais touché un truc comme ça va se mettre à taper en majuscule et à dire tout le monde a des cons, etc., avec des fautes d'orthographe dans chaque mot. Et on retrouve les mêmes personnes trois mois ou six mois après, arriver à s'exprimer par écrit, arriver à tenir compte de l'avis des autres, parce que qui c'est qui a répondu à leur hurlement? C'est des collègues qui leur disent, eh ben attends, c'est pour ci, pour ça que ça marche pas bien. Ou alors, c'est des médecins, des personnes handicapées elles-mêmes, qui disent, mais voilà, moi je suis comme ça, on a tel et tel problème pour telle ou telle raison. En fait, je voyais pas trop initialement le rapport entre ce qu'on fait, l'éthique, et la formation et l'insertion. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans beaucoup de choses que M. Schwartz a dit ce matin. En fait, il disait, on est prêt à se former pour résoudre à ses propres problèmes. Et moi, j'ai commencé par me mettre à créer un site internet parce que c'était un problème que j'avais au niveau de l'association. Et ensuite, hein, les accueillants familiaux, eux, vont sur le site pour résoudre leurs propres problèmes. Et par ça, en fait, au lieu d'être des moutons qui écoutent bêtement ce que leur disent les gens du conseil généraux ou les tuteurs ou d'autres, hein, ou les financeurs, eh bien, ça devient des gens citoyens qui peuvent leur dire, mais voilà, voilà mon point de vue, j'écoute votre point de vue, et puis on va trouver un moyen de mieux s'entendre. L'autre truc que j'ai souligné dans ce que disait Bertrand Schwartz, c'est en fait obliger les gens à écrire. Tous les jours, un petit compte-rendu écrit. Nous, on les oblige pas du tout. Mais s'ils nous écrivent pas, ils peuvent pas s'exprimer et communiquer avec nous. Et donc, on a de plus en plus de gens qui arrivent à vaincre leur peur. En gros, on est 15 000 accueillants familiaux en France, mais il y a 1 500 personnes qui se connectent tous les jours sur le site, hein, qui se servent du forum, etc., et qui vont le consulter. On s'y attendait pas du tout. On disait, c'est impossible. Hein. L'autre niveau, c'est il faut transformer les savoir-faire en savoir. Même si les accueillants familiaux ne sont pas bien toujours d'un grand niveau intellectuel, en fait, pour être accueillant familial, on ne nous demande pas de diplôme. On nous demande avant tout du bon sens et un certain équilibre mental. Même si ces accueillants familiaux ont du mal à l'exprimer, ils ont des tas de savoir-faire. Et des fois, des gens viennent, soi-disant, leur expliquer ce qu'il faut faire, et ils peuvent en apprendre, hein, à ces gens-là, simplement en témoignant de ce qu'ils font, en apportant leur expérience et leur vécu. Et en fait, hein, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a provoqué un court-circuit. C'est-à-dire qu'en haut, on avait les décideurs qui qui nous disait que faire, comment faire, etc., quand le faire. Et maintenant, on a inversé carrément la vapeur, puisque régulièrement, ce sont les conseils généraux qui viennent sur le site nous demander comment résoudre tel ou tel problème qu'ils ont rencontré dans une famille. Alors, dans le forum, c'est pas visible, puisque les adresses e-mail sont cachées, mais on le voit très bien, nous, en tant qu'administrateur du site, @cg.fr, on sait bien que c'est quelqu'un d'un conseil général. Alors, mes expériences précédentes, dans la formation et dans le développement local, m'ont fait redouter une chose plus que tout, c'est l'institutionnalisation, justement. Tous les trucs, les activités que j'ai arrêtées avant, c'était chaque fois au bout de quelques années, quand un projet de pionnier devenait un truc sur un piédestal, avec des millions de francs qui arrivent. En général, je cède ma place au suivant, et puis j'ai tendance à me lancer sur autre chose. Et là, on a eu des aides de la Fondation de France, on est soutenu par la Fondation MAF, assurance, etc. Au niveau financier, on a choisi de ne pas avoir en aucun cas de salariés, et par contre de nous créer un réseau de correspondants locaux, de correspondants ressources, qui sont un peu partout dans la France et qui interviennent sur le site et sur le forum en fonction de leurs compétences. Et ils sont tous bénévoles comme moi. Et donc on en reste à un mode projet, et toujours aussi simple parce qu'on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que un petit truc a fait tache d'huile, et que ce qui était simplement une envie de connaître est devenu une base de connaissances où nous l'avons appris autant sinon plus que tous les autres. Voilà, je ne veux pas faire trop long. On a envie de continuer à évoluer. On se sert d'un outil qui n'est pas un objectif, c'est uniquement un moyen. Pour nous, le Internet, ça aurait été autre chose qu'Internet. On s'en foutait ce que c'était. Mais pourvu que ça résolve notre problème, communiquer sans devoir se rendre à l'autre bout du département de la France, et pour avoir des groupes de parole, et pouvoir se renseigner facilement et gratuitement. Voilà. Le kiosque que je vous propose, comme il fait beau, que je suis un gars de la campagne, de le faire dehors.